Aujourd'hui, dans notre continuation de l'étude sur Daniel chapitre 7, nous allons parler de comment se garder pur, et ça dans l'espérance du retour de Christ. Je vous rappelle que, en fait, nous sommes entrés dans cette dernière partie de Daniel où le prophète dévoile des visions qu'il a eues. Donc, c'est vraiment au cœur de sa relation personnelle avec Christ. Ce sont des visions que Dieu lui a données pour communiquer, pour écrire dans son livre des choses qui touchent de ses jours jusqu'à la fin du monde. Des choses qui sont pour aujourd'hui notre génération, pour ceux qui sont en Christ. Mais avant de commencer, parce que ces visions qu'il a eues, peut-être c'était en rêve, peut-être c'était pendant la journée, mais ce sont des visions qu'il a vues. Et ce sont des choses qu'il a, des choses qui lui ont touché très profondément. On parle de l'épouvante, de l'effroi. Et c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez peut-être eu ou fait un cauchemar si intense que c'était comme presque vous viviez dedans. Et que même lorsque vous vous êtes réveillé, c'est comme vous aviez du mal à discerner ou se déconnecter de ce que vous venez de rêver. Et en fait, ce n'est pas un cauchemar, c'est une vision. Quelque chose qui lui a été donné par Dieu. Nous allons voir, en fait, ce sont des choses que Dieu a aussi révélées à d'autres prophètes et même à l'apôtre Jean. C'est la grande image, la grande révélation que Dieu a donnée et il a donné un petit peu à Daniel, un petit peu à Ézéchiel, un petit peu à Ésaïe, un petit peu à Jean. Mais avec tout, ça nous aide à voir l'image plus large, surtout à la lumière du Nouveau Testament, de l'œuvre complète et finie de Jésus-Christ. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons voir ces choses, comparer texte avec texte. Et donc, nous reprenons là où nous avons arrêté mercredi soir. Je vous rappelle que c'est une vision qui a effrayé le prophète. Et de cette manière qu'il avait du mal, même des jours après. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quatre bêtes énormes et affreux qui sortent de la grande mer, la mer Méditerranée. Et il était particulièrement intéressé par la dernière qui était terrible. Mais après ces quatre bêtes, il a vu le trône de Dieu. Il a vu donc le jugement de cette dernière bête. Et les autres, il a surtout vu comment Dieu le Père donne le royaume, le règne, la domination à Dieu le Fils. Alors, avec cette connaissance, ça nous donne une vision, ça nous donne une explication aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça termine comme ça va terminer aujourd'hui dans notre texte, avec le même message. Jésus est le vainqueur. Jésus est le vainqueur. Et nous allons voir la plénitude de cela quand il revient. Il est vainqueur même aujourd'hui puisqu'il a vaincu à la croix. Et il règne à la droite de Dieu. Mais ces textes nous expliquent que il y a un retour à venir, un royaume qui va s'établir. Et c'est une connaissance qui, oui, peut-être c'est un peu lourde, mais Ça donne une espérance, surtout quand on voit tout ce qui se passe de nos jours. Et une belle motivation aussi pour continuer dans le service du Seigneur jusqu'à son retour. Alors commençons. Des versets 15 de chapitre 7, c'est là où Daniel il est épouvanté par tout ce qu'il a vu. Moi, Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi, les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Tout d'abord, avec l'ampleur de cette vision, j'aimerais juste le comparer avec ce que l'apôtre Paul a dit et il a ressenti. En 2 Corinthiens, chapitre 12, Paul, il est dans une situation où il devait justement se glorifier un petit peu, parler de ce qu'il a reçu, et il ne voulait pas. Mais il le dit quand même, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il parle aux troisième personne de sa propre révélation. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Et puis, il parle des choses qu'il a vues, mais surtout de ce que Dieu lui a révélé. Ces choses-là, il marque une personne. Et Daniel est visiblement marqué. Il parle de sa frayeur. Mais il va plus loin. Malgré tout ça, il cherche à comprendre. Alors il demande. Il demande. C'est-à-dire qu'il s'ouvre pour connaître encore plus. Et il faut se rappeler déjà qu'il était effrayé. Souvent, on a cette idée de Dieu que, comme Dieu, il est gentil. C'est vrai, il est tendre. Il est amour. Mais il n'est pas gentil dans ce sens-là. Dieu, il est grand, il est puissant, il est amour, il est plein de grâce. Mais, voyez, Dieu, il est tellement puissant, il peut nous effrayer et nous avons raison de garder la crainte de Dieu dans notre cœur. Il est tendre comme un père qui accueille son fils dans ses bras, oui. Mais il est terrifiant aussi. Notre Dieu est un feu dévorant, il dit. Mais il nous aime. Il vous aime. Mais ce que j'aime avec Daniel, malgré cette face-là de Dieu, il veut savoir encore plus. C'est un bel exemple à suivre, parce qu'il ne savait pas encore, mais il ressentit que Dieu voulait qu'il aille plus loin. Et c'est toujours vrai, je crois, avec toute révélation. Dieu, il n'a pas de limite. On sait qu'il faut demander notre pain quotidien dans nos prières. Et je pense que c'est quelque chose qu'on le fait, mais est-ce qu'on demande plus de révélation dans sa parole? De plus de qui il est? Déjà, si nous sommes en Christ, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, il demeure en nous. Il nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui nous enseigne dans toute la vérité. Alors, on peut demander pour encore plus de compréhension ou bien plus de connaissances. En Jacques 1, 5, nous sommes exhortés, s'il nous manque de la sagesse, de demander plus avec foi, parce que le Seigneur le fera. Surtout s'il nous manque de la sagesse vis-à-vis de sa parole. Ou bien, en 2 Pierre 1, verset 20, nous apprenons qu'il y a une seule interprétation aux prophéties données dans l'Écriture. Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'est pas possible que le Seigneur ne répond pas favorablement à tous ceux qui lui demandent avec foi? C'est ce que Daniel a fait. Et nous qui avons le sang de Christ pour nous purifier, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il soit aussi favorable avec nous? Je pense qu'on peut demander beaucoup plus de ce qu'on lui demande déjà. Alors Daniel, il demande encore plus. Et puis, il reçoit l'interprétation. Regardons déjà verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Quelle merveille! Quelle merveille! C'est là une variance légère. La semaine dernière, mercredi soir, quand on a commencé ce chapitre, nous avons comparé tout ceci avec le statut que Nebuchadnezzar a vu dans son rêve. Et avec cette première interprétation, ce que nous avons là, ce sont des petites variances de ce que Nebuchadnezzar a vu. Là, il dit que ce sont des rois au lieu de des royaumes comme Nebuchadnezzar a vu. Donc, c'est légèrement différent. Et on va voir plus par rapport à ça. Mais, il y a une autre chose qui m'intéresse. Et je cite Warren Wiersbe qui a observé que souvent, nous admirons des grands personnages de l'histoire des rois et tout, et leur régime, et comment ils ont avancé les choses. Mais ça ne compare pas de la même manière que Dieu voit ces choses. Donc, Dieu, il voit donc ces hommes et leur régime, les régimes qui sont de toute façon contre lui, comme des bêtes, comme des choses effrayantes. Et je pense que souvent ce qui nous manque, c'est de voir les choses plus comme lui. Voyez comment Dieu les voit. Si nous comparons ces rois, je crois que ces images collent encore mieux avec ces bêtes. Parce que tout d'abord, on a lu qu'il y avait cette bête qui était comme un lion, mais avec des ailes d'aigle, qui se mettait debout et puis qui avait un cœur d'un homme. Alors, dans l'interprétation, nous voyons que c'est un homme, un roi. Et nous avons vu que Nebuchadnezzar correspond parfaitement, car Dieu lui a donné un cœur différent. Aussi, on a vu qu'il y avait une autre bête qui ressemblait à un ours. Et Cyrus, ce roi de Perse, il était comme un ours. Il écrasait tout ce qu'il était dans son chemin. D'abord, il commençait avec l'empire des Mèdes. Et puis, il a dépassé Babylone pour écraser tout de ce royaume de Lydie. Et puis, il est revenu sur Babylone. En fait, l'homme était tellement guerrier qu'il est même mort sur le champ de bataille. Alexandre, le grand, il correspond parfaitement à ce léopard. Parce qu'il a conquis tout en seulement 12 ans. Et puis, quand on voit ce terrible quatrième animal, on pense à Jules César et ses conquêtes. Sa soif insatiable de pouvoir et comment il a écrasé les Gaulois, les Celtes, les Germaniques, tout peuple ou personne qui était opposé à lui. Il était terrible. Et ensuite, il dit verset 18 que les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est intéressant parce que du coup, on passe des rois à le royaume éternel. Nous savons que Jésus est le roi de gloire, le roi des rois. On a vu ça mercredi, comment c'est lui qui reçoit la domination, le royaume pour toute éternité. Puis, n'oublions jamais cette merveilleuse promesse en Apocalypse 1:6 où Dieu nous a créés une nation des sacrificateurs et des prêtres, un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est beau. Le royaume nous appartient puisque nous, nous appartenons à Dieu. Et même dans le sermon sur la montagne, heureux les doux, car ils hériteront la terre. C'est merveilleux. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mes chers frères et mes chères sœurs, c'est à nous. Et puis, il donne encore plus de détails sur la bête et la corne. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Et c'est maintenant Daniel qui ajoute, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ceux qui restaient, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres, je vis que cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, donc c'est maintenant l'interprétation. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre et foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent que les premiers. Il abaissera les 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Avec ces détails-là, on comprend tout à fait cette intrigue. C'est bien de... C'est toujours un très bon exemple comment, malgré cette épouvante et cette peur que le prophète avait, qu'il veut savoir encore plus. Et quand il ajoute ces détails, c'est comme il se rappelle lui-même. C'est un petit peu cette curiosité qu'on a quand on entend qu'il y a un accident dans la rue et on veut savoir. Les détails sur la bête ajoutent beaucoup. On parle encore plus sur ses dents et les ongles de bronze qui fait penser toujours aux Grecs grâce à cette statue en Daniel chapitre 2. Et la corne et ses yeux et tout ça, enfin, ça fait vraiment comme un cauchemar, c'est terrible. Mais est-ce que vous avez remarqué encore comment ça termine? Avec les saints qui héritent le royaume éternel. C'est comme Dieu, il répète, il veut nous assurer. C'est notre espérance. Alors, il s'agit principalement de ces derniers royaumes. C'est humain. Et aussi, on parle de ce royaume divin qui clôt tout. Il y a quelque chose, donc, de romain dans cette quatrième bête, dans le dernier animal, parce qu'on parle de la même bête et même ses cornes et tout. Il y a une comparaison avec le rêve de Nebuchadnezzar qui le confirme. C'est la dernière partie de ce statue. Il y a donc ses jambes et ses pieds, mais les doigts de pied où, dans le statue où il y avait une partie qui était de l'argile et l'autre partie qui était mêlée avec de fer. On se rappelle que c'était là qui représentait des alliances qu'ils ont fait entre eux. Et ça fait penser justement à l'Europe issue de Rome. Il semble fort possible, même si on ne sait pas à 100%, mais il semble fort possible. Les 10 têtes, par contre. Il est intéressant que 10 têtes sur cet animal correspond parfaitement avec les 10 doigts de pied. Et là, il dit que ce sont 10 rois. Il y avait beaucoup d'idées avancées pour expliquer qui sont ces 10 rois. Calvin a eu ses idées et bien d'autres aussi. Mais on a du mal parce que chaque fois qu'on veut trouver ces 10 personnages, on trouve qu'en réalité, il y a encore plus. Même récemment, on a pensé, oh, peut-être ce sont 10 pays dans l'Union européenne, mais ben, regardez où on est aujourd'hui, on est presque à 27. Alors, quand on n'a pas tous les détails, il faut garder ça en tête, mais on ne peut pas être dogmatique. Il faut attendre juste qu'on a toutes les informations, tout en croyant que Dieu peut faire ce qu'il a dit dans sa parole, bien sûr. Mais j'aimerais aussi comparer ces visions avec ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 13. Regardez des versets 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon donne sa puissance, son trône et une grande autorité. » Vous voyez? Avec le lion, avec l'ours, avec le léopard et tout, nous voyons que dans cette dernière bête, il y a comme un résumé de tout ce qui venait avant. C'est un mélange, mais c'est ce qui est de plus horrible. Et ça, c'est pourquoi, au fil de l'histoire, il y avait des gens qui se sont élevés, et c'est intéressant que la majorité de ces gens se sont élevés sur le continent européen, mais des gens qui avaient effectivement des traits ou des caractéristiques qui collent un petit peu avec ce qui est écrit là-dedans. Et c'est pour ça que les gens, autrefois, ont pensé que ce peut-être eux, l'Antéchrist, ou eux qui formaient le dernier des royaumes. Par exemple, il y avait Napoléon, après la Révolution française, qui correspondait un petit peu à ces choses. On voit ce qu'il voulait changer le temps et tout. Bon, avec la Révolution française, où on a voulu changer le calendrier et les lois et tout. Ou bien Staline, ou bien Hitler, ou bien Mussolini, avec ses crédits blasphèmes. Mais encore une fois, on n'a pas toute une personne, un royaume, 10 rois qui correspond parfaitement à tout ça. Mais il y avait quand même toujours 10 têtes dans chaque passage. Et si Dieu se répète tellement, mais sans fait historique qui correspond parfaitement, alors, sachant que Dieu ne mente pas, nous pouvons imaginer que c'est à venir, une clarification future dont on attend avec hâte. Mais pour la petite corne, nous avons d'autres passages dans l'Écriture avec lesquels nous pouvons les comparer, notamment 2 Thessaloniciens 2, chapitre 3, qui parle de l'homme impie, le fils de perdition, donc l'antéchrist. Et nous lisons ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu apparaître l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève, notez, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Là, on y est. Et aussi, nous voyons que la fin de cette bête, de cet antéchrist, correspond aussi avec ce que nous avons déjà lu la semaine dernière, en mercredi, en chapitre 11, où son jugement est rapide et soudain, exactement comme il est écrit en Apocalypse 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris le marque de la bête et son image, et ils furent tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Là, c'est même sans passer par le jugement, comme on a vu la semaine dernière. Alors, c'est vrai que certains, avec ces détails et surtout manque d'y croire, ils imaginent une allégorie, une spiritualisation de ces choses en disant que bah, tout simplement ce sont des rois de la terre et c'est une image et que en fait les saints sont l'église qui reçoivent le royaume. Et puisque Jésus est déjà venu, donc c'est nous qui régnons avec lui maintenant spirituellement sur la terre. Mais j'aimerais juste souligner deux, trois problèmes qu'on a avec ceci. D'abord, c'est parce que on a vu que cette corne et l'antéchrist qui est représenté par lui, il s'emporte sur les saints. Donc, il gagne contre eux. Or, en Matthieu 16, 18, nous lisons que les portails de l'enfer ne prévoideront pas contre l'Église. Vous voyez la contradiction? Alors, aussi, on parle donc de la fin et du retour de Christ, mais après que tout ça se passe, alors que dans l'autre vision, c'est que nous régnons maintenant, mais non. Puis verset 26, il dit, puis viendra le jugement. Et verset 27, le règne, la domination et la grandeur. Pas au milieu. Et une dernière chose, c'est que simplement, on parle de cette guerre contre les saints qui dure un temps, des temps, et la moitié d'un temps, que la plupart des experts se traduisent en 3 ans et demi, temps pour année, donc 3 ans et demi. Alors ça nous donne quand même une bonne idée de quand sera la fin de ça et quand sera la venue de Christ. Mais comment est-ce que ça c'est possible, puisque Jésus a dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Comment? Alors, si nous voulons garder une interprétation littérale, la solution, c'est que ça parle de cette époque qui serait après que Jésus revient pour son Église. Comme il est dit en 2 Thessaloniciens 4, verset 14, « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et voici en effet, nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si l'Église est enlevée pour être avec le Seigneur, et puis le monde entre dans cette période d'une grande tribulation, nous voyons que tout colle parfaitement et littéralement. Mais on ne peut pas se tromper sur la fin, parce que c'est répété 3 fois. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur. Je conservai ces paroles dans mon cœur. Jésus est le vainqueur, mais c'est lourd à porter. Et il faut le dire, ce n'est pas à nous de passer toute notre vie à chercher l'Antéchrist, mais à glorifier Jésus-Christ. Trois fois dans ce chapitre, on termine avec la même chose. Jésus-Christ règne victorieusement, car il est victorieux. Certes, il y a des royaumes terribles et bêtes, mais tout termine bien avec l'alpha et l'oméga. Le règne qui vient, ça vient après le jugement et pas avant. La fin de la prophétie, c'est le règne de Christ et les saints avec lui. C'est là où on va dans ce monde, même si les dirigeants n'en veulent pas. Mais qu'importe. Ça aussi, c'est un sujet de prophétie. Les moqueurs seront toujours présents. Mais ça ne change rien. Dieu aura la dernière parole. Et il va avoir encore plus de moqueurs le plus qu'on s'approche de la fin. Alors, en conclusion, je vous exhorte à être encouragés, même dans vos difficultés. Christ, il revient. Et peut-être le temps est encore plus proche qu'on l'imagine. Je me rappelle, au début de ma foi, je rêvais beaucoup de ça. Et oh, que je voulais le voir à tout moment, surtout quand les choses n'allaient pas bien. Mais quelque part, c'est normal. Ça fait rêver. Ça donne de l'espoir. Et c'est un espoir qui ne déçoit jamais. Oui, c'est une connaissance lourde. Oh, mais c'est bien compréhensible. On comprend. Daniel, il fut effrayé après ses visions. Mais pourquoi est-ce que il y a des frères et des sœurs qui s'enorgueillent après avoir une connaissance de ces choses? Et ils se disputent les uns avec les autres, surtout avec ceux qui voient des choses différemment. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce que ça répand la paix? En vue du retour imminent de Christ, ça doit nous pousser vers la sainteté. La connaissance du retour de Christ nous inspire à chercher la pureté, à réfléchir même sur comment nous voulons que le Seigneur nous retrouve lorsqu'il revient. Quand il revient, nous serons changés dans un clin d'œil et nous le verrons. Comme il nous le voit, mais nous le verrons dans toute sa gloire. On ne veut pas être gêné. Non. Mais ça nous encourage à être prêts pour le jour. Gardez cette espérance et gardez-vous purs. Car celui qui garde cette espérance se garde pur. Jésus-Christ, il revient bientôt.